Frédéric Rollin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller en investissement pour Pictet Asset Management. On va parler avec vous de marché de perspective. Alors, bien entendu, d'abord, la réserve fédérale américaine, le discours de la réserve fédérale américaine. Comment vous l'avez interprété, vous? On remet une hausse des taux à plus tard ou on se donne la possibilité de le faire cette année?
Je crois qu'ils se donnent la possibilité de le faire hein, en enlevant le mot patient. Bah, tout simplement, ils indiquent que la hausse des taux pourrait arriver dans à peu près 2 mois. Donc à partir du mois de juin, en fait, ils pourront monter leur taux. Nous, on pense qu'il est assez probable qu'ils ne le fassent pas néanmoins au mois de juin. N'oublions pas que cette annonce est aussi accompagnée eh bien, de révisions à la baisse des perspectives économiques et des perspectives d'inflation aux États-Unis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les perspectives d'inflation aux États-Unis sont assez faibles. On a vu que les hausses de salaire qui avaient commencé une progression significative sont en train de ralentir aujourd'hui. Et donc la possibilité d'un retour de l'inflation en 2015 est plutôt écartée. Donc nous, on a le sentiment que la Fed s'ouvre la porte pour monter ses taux, mais on continue de penser que cette hausse de taux n'aura pas lieu avant septembre, parce que malgré tout, les chiffres économiques qu'on a aux États-Unis depuis quelques mois sont assez médiocres.
Donc quelque part, la Fed a fait la part des choses entre la création d'emplois, où on avait vu de bons chiffres, et puis ce qui s'est passé sur le pétrole et surtout sur le dollar, effectivement cette montée du dollar.
Tout à fait. Effectivement, si les chiffres économiques américains sont un peu moins bons, c'est aussi parce que le dollar en soi est déjà un resserrement monétaire. Donc je dirais que la hausse du dollar a fait le boulot de la Fed. Et puis, la deuxième chose, c'est que je pense que la Fed va essayer d'être un petit peu moins prévisible. Elle l'a annoncé. C'est vrai que le fait que la Fed soit si prévisible dans ses actions, finalement, va conduire même à une surinterprétation de ses paroles et finalement va être créateur de volatilité sur les marchés. Donc ce que souhaite faire la Fed, finalement, c'est de laisser au marché, j'ai un petit peu plus de latitude à exprimer les données économiques et faire un petit peu moins attention aux déclarations. Donc je pense que effectivement indiquer une hausse des taux à partir du mois de juin et puis finalement ne la faire qu'en septembre, même si l'argument voilà, est pas majeur, ça serait une bonne façon pour la Fed d'indiquer au marché qu'attention, il vaut mieux regarder les données économiques aujourd'hui plutôt que je dirais, d'analyser jusqu'au micron près ces déclarations.
Justement, avec un scénario plutôt de relèvement progressif, c'est-à-dire de remontée lente de ces taux.
Alors, il y a deux membres de la Fed qui sont partis et qui ont pris leur retraite et qui étaient plutôt des faucons. Et puis, on a aussi quand même effectivement des données économiques qui sont un petit peu médiocres et qui montrent quand même que l'inflation aura du mal à monter. Donc, dans l'ensemble, la Fed a rabaissé effectivement ses perspectives de hausse des taux. Et finalement, ce qui devient important, c'est plus tellement quand, mais c'est surtout à quel rythme. Et je crois que le rythme sera tout simplement celui des données économiques qui vont, en termes d'inflation, s'améliorer très progressivement aux États-Unis. Donc nous, on prévoit plutôt une hausse des taux sur un rythme de 1/4 point tous les deux meetings, donc 1 point par an à peu près, autour de 8 meetings par an à la Fed. Mais peut-être, voilà, un mois, il n'y aura rien, un autre mois, il y aura voilà, 0,50, puis 2 mois, rien. Donc ça sera peut-être plus irrégulier, tout simplement pour habituer le marché, finalement, à reprendre contact avec les données économiques fondamentales au moment où la Fed est en train d'enlever son soutien.
Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, du côté de la BCE, là, on avait plutôt des signaux positifs, en tout cas un début en Europe, avec ce QE qui se met en place. On voit les montants qui sont annoncés. Est-ce que ça donne plus d'attrait à l'Europe aujourd'hui?
Alors clairement, il y a beaucoup de choses qui sont assez positives sur l'Europe. Donc on parlait de la hausse du dollar, on peut parler de la baisse de l'euro, hein, donc qui va effectivement améliorer la situation des entreprises exportatrices. Et puis on a aussi la fin des AQR, c'est-à-dire que la BCE a mis pression, une forte pression sur les banques jusqu'à novembre 2014, et donc ça a empêché la croissance du crédit. Aujourd'hui, ces stress tests, ces AQR sont terminés avec satisfaction et on voit le crédit qui repart. Donc déjà, même hors quantitative easing de la BCE, on est déjà dans une perspective quand même d'amélioration économique. On voit que, notamment aussi les indicateurs avancés en termes de confiance de consommateurs, confiance des investisseurs est déjà meilleure. Et puis à cela s'ajoute, je dirais comme un point d'orgue, le quantitative easing de la BCE qui va permettre de maintenir des taux bas pendant très très longtemps et donc d'assurer, je dirais, aux emprunteurs une capacité de remboursement meilleure, peut-être aussi une relance des investissements, en tout cas d'essayer de relancer le crédit de façon solide pour que la croissance économique européenne revienne sur des rails.
Alors en même temps, quand on voit aussi l'évolution des marchés, on parle de ce marché européen, on voit quand même ces nettes progressions, on se dit les actions certes sont privilégiées, mais est-ce qu'on n'est pas sur des valorisations un peu excessives? Finalement, les banquiers centraux font en sorte que les investisseurs aillent sur les actions, mais est-ce qu'on ne va pas trop loin?
Alors, non, nous on ne pense pas. Nous, on reste acheteurs aujourd'hui sur les actions européennes. Je crois qu'il y a deux raisons. D'abord, je dirais un raisonnement qui est pur marché, c'est-à-dire qu'on n'a guère le choix. C'est même avec des PE qui sont historiquement plutôt sur des niveaux élevés, on est quand même sur des rendements sur bénéfices de l'ordre de 5%. Alors que le rendement moyen sur des obligations d'État européennes, c'est 0,50%, c'est-à-dire 10 fois moins. Donc c'est vrai que les investisseurs sont naturellement poussés à acheter des actions. Donc on peut dire, voilà, si les actions sont chères, il n'est pas impossible qu'elles deviennent encore plus chères et qu'elles deviennent très chères. C'est un raisonnement de marché, c'est pas un raisonnement qu'on adore tenir longtemps parce que, en général, acheter des choses trop chères, ça n'est pas bon. Mais par ailleurs, le rebond de la croissance économique européenne, qui est en train de se matérialiser aujourd'hui, va probablement nous donner des croissances bénéficiaires assez importantes. N'oublions pas que les marges des entreprises sont vraiment au plancher et donc tout accroissement du chiffre d'affaires va se traduire assez directement en bénéfices, dans des marges plus grandes et en des plus grands bénéfices, parce qu'il y a probablement quand même une sous-utilisation des capacités, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient industrielles. Donc le marché anticipe autour de 15% de croissance des bénéfices pour 2015, à peu près 13% pour 2016, ça fait pas loin de 30% de croissance de bénéfices sur deux ans, qui nous paraissent raisonnables compte tenu de la situation économique. Et si on parle, pour faire un petit peu de maths, mais si on parle de 17 de PE et qu'on enlève 30%, finalement on revient sur des valorisations assez normales, voire pas si cher que ça. Donc il y a une prime de risque, on n'est pas sûr que ça va faire 30% de croissance des bénéfices, mais néanmoins il y a une logique. Il y a une logique de prix qui nous fait dire aujourd'hui, oui, peut-être les actions sont un petit peu chères, mais pas très chères non plus, et donc ça vaut le coup d'y être encore aujourd'hui.
Alors on a pas mal parlé de ces mouvements de devises, aussi de ce qui se passe sur le pétrole. Ça a forcément un impact sur les marchés émergents. Est-ce que du coup, cette classe d'actifs-là risque d'être sous turbulence, on va dire, dans les prochains mois, enfin en tout cas cette année?
Alors, c'est une classe d'actifs qui est clairement sous turbulence aujourd'hui. Je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, dans un contexte de hausse du dollar, ça crée deux vents contraires pour les marchés émergents. Souvent, la hausse du dollar, par ajustement, s'accompagne d'une baisse des matières premières. Et les marchés émergents sont quand même assez souvent des producteurs de matières premières. Pas toujours, mais enfin assez souvent. Donc, tout cela sont en train de souffrir. Et puis, une hausse du dollar et une hausse des taux de la Fed, s'accompagne finalement souvent par un retrait des investisseurs qui avaient une diversification sur les pays émergents pour aller finalement vers du dollar qui est plus rémunérateur. Donc elles sont à la fois confrontées à une baisse de leur prix de vente et puis à des difficultés de financement, et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Néanmoins, nous on pense que le mouvement est déjà quand même largement entamé. Les devises émergentes sont sous-valorisées selon nos modèles de plus de 20%. Donc ça sera, je dirais, bientôt, mais pas encore aujourd'hui, le moment d'investir. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est déjà qu'il y a un petit peu plus de liquidité dans le marché. Les banques centrales, pour défendre leur monnaie, ont monté leurs taux. Là, elles sont en train de les rebaisser. On voudrait voir l'effet. Et puis, on voudrait voir un petit peu plus de reprise des exportations, parce que malgré tout, la reprise des exportations des pays émergents vers les États-Unis reste encore un peu poussive, malgré la hausse du dollar. La consommation américaine n'est pas complètement installée. Donc voilà, quand on aura eu ça et que la Fed aura monté ses taux, voilà, à ce moment-là, ça sera probablement le moment d'investir, peut-être un petit peu avant, parce que évidemment, quand tout le ciel est bleu, en général, il est un peu trop tard. Mais en tout cas, on attend un petit peu un petit peu plus de clarté. On va pas être les premiers à attraper le couteau qui tombe.
Merci Frédéric Rollin d'avoir été avec nous.
Merci.